Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers et bienvenue également à tous ceux qui nous suivent sur les chaînes du Front Office avec qui on va faire une mock draft Dynasty Rookie. Alors, salut Jérôme, salut Alex, comment ça va?
Très bien, merci, merci, ça fait plaisir. Hein. On avait annoncé plusieurs collaborations, donc c'est première d'une longue série.
Exactement, exactement. Et puis de notre côté, on a Lucho.
Hello, salut tout le monde.
Et les frères Alex et Franz, comment ça va les gars?
Bonsoir monsieur,
super, merci
bonsoir
à tous.
Alors ce soir, l'objectif c'est de faire une dynastie rookie mock draft, car on sait qu'en dynastie, ben, à partir de la deuxième saison, on ne fait que drafter les rookies, et c'est la saison des mock drafts. Est-ce que vous êtes dans des dynasties, Jérôme et Alex, est-ce que vous avez des rookie drafts à faire là, dans les semaines qui viennent?
On a déjà commencé une, on est sur une rookie draft où on avait le 1.01, autant dire que notre saison s'est très bien passée l'année dernière. mais on avait aussi le...
Toujours bon signe.
C'est une super flex. On avait aussi le 1.06 parce qu'on avait réussi quelques petits trades. Voilà, on s'en est plutôt bien sorti. On a bon en 1.1, on a pris le joueur que je vais prendre tout à l'heure. Au suspense. Et voilà. Et après, non, on s'en est bien sorti. Hein. C'est une super flex en 6-7, en 7. On a pris Jahmyr Gibbs, donc on était assez contents.
Ah, parfait, parfait. Ben, on va voir ce que ça va donner là. Nous, de notre côté, on en a une aussi, mais on n'a pas commencé la draft parce que notre ami Nico est en vacances. Où ça? Vietnam? Thaïlande? J'oublie à chaque fois les deux. Quelque part en Asie. Et ce mec, non seulement se permet des vacances en plein mois de mai, mais en plus nous fait perdre une semaine pour notre rookie draft. Donc vraiment, Nico, inacceptable. Avant de commencer la draft, je voulais juste qu'on passe deux mots d'abord sur les quelques news qu'on a eues hors rookie. Donc pendant la draft, première news, DeAndre Swift a été tradé aux Eagles. Une réaction, qu'est-ce que vous pensez de ce trade? Au-delà de ce que ça veut dire pour Detroit qui a drafté Jahmyr Gibbs, mais pour Swift lui-même, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, mauvaise chose, neutre?
Pour Swift, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Enfin, derrière, ça peut pas être pire que ce qu'il y avait aux Lions, là, donc ça c'est que mon avis. En plus, en face, c'est entre guillemets cœur à Rashad Penny, qui sort quand même qui est souvent blessé et qui risque d'être blessé encore. Donc, je pense que c'est une meilleure situation pour lui et c'est pas si mal.
Assez d'accord. Globalement, on attendait un peu le trade quand on a vu la sélection de Jahmyr Gibbs. On savait pas trop où il allait aller. Il est allé dans l'équipe qui court le plus pour l'instant. Ça devrait continuer l'année prochaine. Elle devrait faire partie des équipes qui courent le plus. Il a cette double possibilité de capter des ballons. En fantasy, ça peut être intéressant s'il reste sur ses deux jambes, sur le terrain, à voir.
Ouais, c'est clair. Ça peut être pas mal, mais le seul risque, à mon avis, c'est... déjà, je sais pas si vous m'entendez mieux. Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure ou c'est...
Disons que ça ne grésille pas.
C'est toujours aussi pourri, ok. Un problème de matériel, clairement. Le seul risque, c'est que Philly mène beaucoup au score. Le jeu de Swift, c'est aussi à la passe. Et entre la goal line qui sera prise par Hurts, les carries logiques, tant que Penny ne se blesse pas, seront pris par Penny et d'autres joueurs. Si Swift il a un rôle un peu comme Détroit, il aura moins cette opportunité-là qu'il avait avant. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est mieux que s'il restait à Détroit, ça c'est sûr. Deuxième news, moins importante, mais Adam Trautman, tradé aux Broncos. Est-ce que vous pensez que c'est un risque pour Greg Dulcich ou juste pour Albert O, je vais même pas essayer de dire son nom complet, ou pour aucun des deux et ça change strictement rien, c'est juste de la profondeur.
Pour moi, c'est juste de la profondeur. Après, Dulcich, à quel point il est relevant en fantasy, c'est un petit peu compliqué de base, étant donné qu'en plus, il y a quand même du renfort en receveur qui est arrivé aussi. Et de la course, donc j'aurais été pas forcément hyper confiant à prendre Dulcich en fantasy, Je suis peut-être un tout petit peu moins, mais c'est pas ça qui va changer grand chose pour ma part dans mon ranking de Dulcich sur les Titans.
Ouais, globalement, j'ai envie de dire, Wilson a toutes les cartes en main pour faire une belle saison. On lui a apporté des armes au poste de tight end, au poste de receveur. Il a du matériel au sol, on a renforcé sa ligne. La défense était déjà correcte. Maintenant, c'est tout droit pour lui.
On a changé le coach aussi. Ça, c'est
et le coach, ouais.
C'est pour ça que Trotman vient. C'est parce que c'est le coach qui est Sean Payton qui est là. Non, moi, pour moi, l'information la plus importante dans le trade de Trotman, c'est pas pour Trotman, c'est pour Joanne Johnson, le tight end des Saints. Lui, du coup, en termes de cote en fantasy, en tant que tight end, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, il y a Taysom Hill, ok. Mais bon, parce que ce mec-là, de toute façon, je ne sais pas où le foutre, Taysom Hill. Mais Joanne Johnson, ouais, c'est intéressant.
Après, il n'a pas une énorme saison 2022, Trotman, je crois. Il était quand même bien moins utilisé.
C'est pour des schémas spécifiques, Trotman.
Et voilà.
C'est pas de bloqueur, mais bon, c'est tout.
Il a quand même que seul, je crois que je viens de regarder, là, il a que 4 touchdowns en carrière, donc on va se calmer un peu.
C'est ça.
On va faire ça tout aussi.
Ok, Murray, Latavius Murray, signe aux Bills, ils n'avaient pas drafté de running back. Est-ce que c'est important, ça mérite d'être mentionné, ou est-ce qu'il sera cut avant le début de la saison? Ou est-ce que c'est vraiment du backup?
Cut peut-être pas, après il servira, il pourra peut-être servir si jamais il y a des blessures, etc. Je pense.
C'est une mauvaise nouvelle. C'est plutôt pas mal pour Latavius Murray. Moi je trouve que c'est un des joueurs qui a un peu un de ces backup QB qui tous les ans on se dit ouais il est trop vieux, c'est qu'un backup, et à chaque fois qu'il joue quelques matchs pour remplacer les blessures, bah, en fait il score. J'ai l'impression que c'est un deal gagnant-gagnant.
Est-ce que ça affecte la value de... Est-ce que ça affecte la value de James Cook à ton avis?
Non.
Ça affecte peut-être la value, peut-être un peu la value de Damien Harris.
Ouais, plutôt.
Mais on en avait parlé d'ailleurs lors du live pré-draft de Damien Harris. Je trouve que ça pèse peut-être un tout petit peu sa value, mais bon. Il y a Naeem Hines aussi en quatrième running back, donc.
Il y a trop de monde.
Non, je crois que James.
Avec Josh Allen, il y a trop de monde en tant que running back.
Oh ouais, ça va à peine courir.
Bah, Allen a dit justement qu'il voulait courir moins cette année, voilà, pour éviter les coups, se préserver. Alors, est-ce que ça va vraiment être appliqué sur le terrain? À voir. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ses running backs, si c'est vrai.
Et pour ses tight ends. On en reparlera.
Ok, et la dernière, elle vient d'aujourd'hui. Jordan Love a prolongé. Il n'a pas eu l'option de cinquième année levée. Il a eu une prolongation de contrat à la place. Le deal est intéressant parce que du coup, s'il n'est pas bon, en fait, je crois que c'est 12-13 millions minimum, et puis ça peut être avec des incentives jusqu'à 22. Si c'était la cinquième année, ça serait une vingtaine de millions. Donc en gros, s'il joue très bien, il gagnera un petit peu plus. Donc c'est une incentive pour lui. Et s'il est mauvais, Green Bay gagne 7 millions, mais conserve quand même le contrôle sur cette cinquième année. Qu'est-ce que tu penses, Alex, puisque c'est toi le principal concerné?
Moi, j'ai envie de dire que, en fait, ça confirme que Green Bay n'assume pas le choix qu'ils ont fait en Jordan Love, n'assume pas le first round qu'ils ont mis sur Jordan Love pendant la draft, n'assume pas toute l'histoire avec Aaron Rodgers. Donc, pour finir, ils se disent mince, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas lever l'option, on va faire comme ça, et puis on verra bien. En soi, financièrement, c'est pas très grave. Il y a juste une histoire de 1, et quelques millions de dollars dans l'histoire. Mais c'est surtout, je pense, pour la forme et par rapport au front office de Green Bay Packers. Quoi.
Est-ce que c'est pas un peu une assurance aussi de se dire, bon, voilà, s'il n'est pas bon, on peut le virer plus facilement. Et s'il est bon, à ce moment-là, on envisage de voir ce qu'on peut faire.
D'accord, mais ce n'est pas un free agent que tu as pris pendant la saison. C'est un first round que tu as pris, que tu as drafté pendant que Aaron Rodgers était MVP. Donc, après, ça donne pas forcément, enfin, pour moi, ça donne pas forcément une image, on va dire, de sérénité quant à la gestion quand même des joueurs et du coup aussi des contrats, parce que du coup, tu sais que tu prends un first rounder avec un contrat de 4 ans rookie, alors que tu as les MVP en titulaire, et tu attends au bout de 3 ans que le MVP titulaire enfin puisse être tradé. Enfin bon, c'est pas funky pour lui, pour Jordan Love, c'est pas funky pour les fans. Si c'est funky pour Gunkunst et le futur retraité qui est notre président, tant mieux.
Non, en revanche, s'il est excellent, est-ce qu'on crie pas au génie dans 2 ans s'il est excellent?
Ah bah c'est oui.
Ouais. Après orienter le jugement de la décision en fonction du résultat, je suis pas fan. Moi,
non.
Je trouve que ce qu'ont fait les Packers, ça a été mal géré. Nous, on en a parlé plusieurs fois de notre côté, mais c'était trop tard pour bouger Rodgers. Il fallait le faire 1 ou 2 ans plus tôt. Et si tu voulais vraiment investir sur Love et lui donner sa chance, le lancer, quoi. C'était... Là, c'est un peu, bah mec, t'es un bouche-trou, on n'a même pas confiance en toi. On t'a mis plein de cibles, mais enfin, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour le futur QB qui aura l'avenir?
Et puis, en plus, ils lui disent avec la 5e année, tu peux gagner 20 millions, mais là, avec ce deal, tu peux gagner 22 millions. C'est même pas 27 ou un truc comme ça. Quoi.
Son patron vient le voir, lui dit écoute, ouais. Moi, franchement, je pense que t'es pas très bon dans ton taf, donc oublie l'augmentation, je vais même couper un peu le salaire, tu vas voir, ça va bien se passer. C'est
pour compliqué. L'achat de 2 barres de fer, vous avez 2 barres de
Allez, là-dessus, on va passer à la mock draft. Alors, hop, voici le board. Et Alex a le pick numéro 1. Alex a le pick numéro 1. Jay, pick numéro 2. Donc, déjà, favoritisme violent pour le front office. Mais bon, on va voir.
C'est un micro qui fonctionne aussi, c'est pour ça.
Exactement. On va voir ce qu'ils arrivent à faire avec. Et je vais lancer la draft dans 30 secondes. Est-ce que vous avez un favori hormis les... Alors, déjà, je rappelle un peu les règles qu'on s'est établies. Donc, il faut drafter un QB, un running back, 2 receveurs, un tight end et 2 flex, donc 7 joueurs en tout. Et on part du principe qu'on a déjà une équipe à peu près stable dans tous les postes, on n'a pas un besoin particulier, comme ça on est vraiment en train de rechercher un mix de valeurs futures et qui peut nous aider le plus rapidement possible également. On fait comme si c'était Superflex, même si ici on draft un seul QB, on fait comme si c'était Superflex et que, encore une fois, on a déjà notre équipe et que tout va bien. Je suis vraiment désolé pour le son, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui je vais presque pas parler parce que ça va être l'heure à tous les autres. Je sais pas pourquoi le son est si pourri, c'est exactement le même setup que d'habitude. Je m'excuse et là-dessus je lance la draft. Alex, you're on the clock.
Là, tu viens de nous annoncer Superflex. Alors, tu l'avais sûrement écrit quelque part, mais moi, je lis pas les informations avant le podcast. Du coup, vu qu'il faut forcément un QB, je vais partir sur un QB. Parce que vu que je suis en 1 et qu'après, je pique en 2.6, j'ai peur que ça tombe vite. Voilà, quoi.
Ok. Allez.
Ah mince, ça s'affiche pas. Ah si,
ça s'affiche.
Donc, j'ai pris, pour ceux qui écoutent juste, j'ai pris Anthony Richardson, simplement parce que je trouve que c'est le QB avec le plus gros upside, et si j'ai une équipe qui est complète, je veux un mec qui peut monter le plus haut possible, et donc du coup je prends Richardson.
Écoute, je suis tellement surpris du cadeau que tu me fais que...
Je suis surpris aussi. Hein.
Ouais, t'as entendu le mot superflex, tu t'es réveillé. Mais je vais quand même prendre Bijan Robinson. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui suivent la NFL ont vu qu'il était tombé très tôt dans le premier tour. Il est présenté pour tout le monde comme un joueur générationnel. Il est tombé dans une des équipes qui court le plus, qui était, je crois, la 2e équipe avec le plus grand nombre de courses la saison dernière. Un coach qui adore courir, une ligne qui s'est encore renforcée. Pour moi, il n'y avait pas trop de doute. Et pensez à vous abonner un maximum puisque Marc doit s'acheter un nouveau micro.
Et juste un truc, Franz, c'est à toi. Je peux même faire pause si tu veux. Mais attends, je vais faire pause 30 secondes. Ouais, pour être sûr que tout le monde ait ses 45 secondes pour parler, dites le pic, expliquez pourquoi, et ensuite sélectionnez-le comme ça. Comme ça, on ne peut pas craquer la cloque du mec d'après. Allez, c'est parti.
Eh bien, moi, du coup, je vais choisir CJ Stroud. J'ai pas mal hésité, bien entendu, au numéro 3, tout dépendant, dépendamment de ce que vous alliez faire. Bon, évidemment, tout dépend du QB, de l'autre QB qu'on a lors de la Superflex, hein, à quel point on est confiant. Mais là, pour moi, c'est le quarterback d'une équipe qui est quand même plutôt complète, qui a quand même pas mal d'armes, qui est prête. J'aurais pu prendre Bryce Young, bien entendu. J'ai pas voulu faire Mahomes. Je prends CJ Stroud. Et je pense que je serais très content dans une Superflex avec ce rookie.
Au-delà de Homer, tu penses que dans 5 ans, Stroud, il sera au-dessus Bryce Young?
Non.
Ok.
Non, je pense que Bryce Young est aujourd'hui meilleur et sera toujours meilleur que Stroud dans 5 ans. Alors après, tout va dépendre des choix de Houston, mais pour moi, Bryce Young est day one ready et sera constant.
Alex, on a commencé la draft, au fait.
Oui. Alors, vous pouvez m'appeler Lala, du coup, parce que ça évite, comme il y a deux Alex.
Ouais.
Vous avez le droit de m'appeler Lala. Donc, moi, ce que je vais...
Il cherche Aaron Rodgers.
Il cherchait à Green Bay, il l'a pas trouvé.
Il l'a pas trouvé.
Non, mais en fait, il y a un petit casquette, mais du coup, casquette, je veux dire, mais du coup, ouais, je prends Brassian, parce qu'il faut prendre un QB et que après ces trois QB là, on est à un autre niveau. Donc c'est évident que je prends Brassian qui est le dernier gros QB de cette draft en rookie.
Ok, ben moi je vais partir sur plutôt sur un RB, je vais partir sur Gibbs, qui pour moi aura forcément du travail dans l'offense des Lions. Le départ de Swift lui a ouvert quand même pas mal de portes. Après, peut-être qu'il n'aura pas les goal lines parce qu'il y a Montgomery qui a un physique peut-être un peu plus imposant. Mais c'est quelqu'un qui aura des courses, qui aura du jeu, qui peut être bon aussi à la passe, etc. Donc, je pense que ouais, je vais partir sur Gibbs avec une bonne production si t'as des chances.
Parfait. Alors, du coup, de mon côté, les QB, les trois intéressants sont partis. Les deux running backs qui méritent d'être pris très haut sont partis. Donc, du coup, je vais construire mon roster autour de receveurs. Et sans surprise, sans grande surprise, je pense, je vais prendre Jackson Smith et Njigba. Et Jordan Addison. Smith and Jigba, il a un landing spot qui n'est pas ouf pour la première année. Surtout à Seattle, il va jouer autour de DK Metcalf et
Tyler Lockett.
Tyler Lockett, merci. Mais Lockett a 31 ans. Et il y a des chances que si Smith and Jigba joue vraiment bien, déjà il peut s'insérer en slot et avoir pas mal de points PPR dès cette année, mais il peut aussi exploser dès l'année prochaine. Et je pense que c'est celui qui a le plus de talent. Et en deuxième, Jordan Addison, qui lui est plus le pick safe pour avoir un impact un peu plus dès cette année à Minnesota. Je le vois bien s'aligner dans le slot, mais en étant la deuxième arme principale devant Hockenson et derrière Justin Jefferson, pour une équipe qui l'année dernière passait beaucoup le ballon, malgré la présence de Cook et Mattison, il passait beaucoup le ballon. Donc il y aura des targets dès cette année pour Jordan Addison. Toc.
Il m'embête là. T'aurais pu me laisser Addison quand même, je l'aime bien. Mais écoute, je vais partir aussi sur un receveur. J'hésite parce que là, Johnston et Flowers pour moi sont relativement proche dans les projections. Je vais plus partir sur Flowers parce qu'il a un profil qui est plus, je pense, axé dans le slot. Donc, au niveau des Ravens, je pense que ça serait mieux dans ce pic-là. Maintenant, voilà, j'ai beaucoup hésité quand même, mais je pense que Flowers devrait être légèrement au-dessus de Johnston au niveau des productions à la fin de l'année.
Lucho, tu ne penses pas que Johnston va jouer dans le slot ?
Je ne sais pas, parce qu'il a tendance aussi à jouer à l'extérieur à l'université. Donc, je ne sais pas. Je t'avoue qu'après, Allen prend beaucoup de place aussi dans le slot. Je ne sais pas trop. Franchement, je t'avoue que c'est compliqué de choisir entre les deux.
Pour moi, de toute façon, tous les receveurs rookies quasiment vont démarrer globalement dans le slot. C'est évident, c'est comme ça qu'ils vont apprendre, parce que comme on était sur une QV de receveurs, pas d'un très gros niveau. Donc du coup, il faut que je choisisse là maintenant, Marc, parce que c'est, j'ai plus rien. Non, Marc, allô? Je fais quoi maintenant? Je prends. Allez, bon, alors du coup, je prends Quentin Johnston, moi, de mon côté. Parce que c'est le receveur numéro 3 des Chargers. Derrière Josh Allen et Mike Williams. Ça fait un peu doublon physiquement par rapport à Mike Williams. C'est des grands costauds. Mais Mike Williams, comme il a aussi tendance à se blesser, c'est une top aubaine d'avoir Quentin Johnston en draft.
Pas mal, pas mal. Bon, tout ça, c'était bien rigolo. Mais moi, le prochain dans mon board, c'est mon numéro 9 dans mon board des rookies. Je le prends maintenant et c'est Sam Laporta. Oh. Je prends Sam Laporta parce que premièrement, il va jouer tout de suite. Et moi, c'est bien beau la dynastie, mais c'est peut-être pour gagner dans quelques années. Mais moi, j'aime bien gagner tout de suite. Et donc, je veux des joueurs qui jouent. Donc, je veux des joueurs qui aient moins de concurrence. Et Sam Laporta, moi, je l'adore. S'il reste en bonne santé, il a des mains incroyables. Et Jared Goff, il va le kiffer. Et il va être productif tout de suite et pendant de nombreuses années. Et Dalton Kincaid, on l'adore tous, mais il y a Dawson Knox. Donc, je prends Sam Laporta.
Eh bien, je vais pouvoir enchaîner sur ce que tu dis, puisque moi, je vais aller sur Kincaid. Je pense pas que Dawson Knox va être un gros souci. Il a été régulièrement blessé ces dernières années. Je ne suis pas sûr qu'il le trouve si fiable que ça pour avoir pris Kincaid aussi haut. Et je pense que d'être associé avec Josh Allen lui permet d'être quand même vachement valuable tout de suite et pour le futur. Donc voilà, sans hésiter, celui que je trouve le plus intéressant parmi les Titans du board.
Et il va être intéressant en red zone aussi, je pense. Hein.
Ouais.
C'est évidemment un super choix.
Je te remercie.
Ouais, là je trouve qu'il y a un petit écart un peu avec le reste. C'était plus simple le premier pic, on va dire, que le dernier pic du concours. Hein. Pour encore une fois, je vais partir sur le fait que je pique pas pendant longtemps derrière. Enfin, j'ai deux pics à la suite, mais je pique pas pendant longtemps derrière. Donc je vais bloquer la position de tight end, et pour le coup, je vais prendre celui que je préfère aux deux qui sont avant, qui sont sortis avant. C'est Michael Mayer des Riders. Je trouve qu'il y a une place qui s'est libérée. Bon, il y a toujours Adams à côté, mais je pense que Garoppolo, il peut lancer des ballons au tight end, il a une petite habitude, on va dire. Donc, partir sur Mayer, en plus, qui a été pris très haut par les Riders, donc je me dis qu'il y a une petite chance de faire quelque chose. Et ensuite, c'est là où la question se pose. Et je vais prendre un running back et je vais faire un choix d'équipe. Parce que je suis pour les Dolphins, donc je vais partir sur Devon Akane, parce que je pense que c'est celui qui a la meilleure situation de ceux qui sont encore disponibles. J'ai un peu du mal avec Charbonnet, avec Walker, mais voilà. Et sachant que si j'avais un choix au milieu, j'aurais peut-être pu le prendre au quatrième, mais là, c'est un peu compliqué.
Bien, écoute, moi, je vais partir sur... pas si simple. Ouais, je pique pas pendant longtemps.
C'est logique. C'est joueur pas si simple.
Alors, pas si simple, eh bien justement, en tant que fan des Titans, il s'appelle Will Levis, parce qu'il est dans une situation pas si simple. Il a devant lui un Ryan Tannehill, dont je pense que ce sera la dernière année avec les Titans. Peut-être même que Levis pourrait prendre le poste en cours d'année en fonction de comment ça se passe, selon est-ce qu'Henry va rester ou pas, est-ce que ça va bouger. Il a entré Traylon Burks. Déjà son receveur d'avenir. vu qu'on part du principe de on a des équipes déjà bien fixées, on va prendre le QB ici.
Tu penses sincèrement qu'il va être productif?
C'est... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas assez le prospect pour imaginer comment ça peut se traduire en NFL. Après, ça ne peut pas être pire que ce qu'a fait Tannehill l'année dernière. Hein, donc, en tout cas, je pense qu'il aura sa chance. Alors, s'il arrive à la saisir, il peut être très intéressant. Sinon, ce sera un troisième pick dynastie pas trop chèrement payé sur un QB qui pourrait être titulaire dès cette année.
Ça se tient. Eh bien, moi, j'ai pris quarterback, j'ai pris Sam Laporta à tight end, et il faut peut-être que je prenne un receveur. Eh bien, je vais prendre le numéro 3 de mon board, et c'est Jaden Reed de Green Bay. C'est le numéro 3 de mon board parce que je pense qu'il peut être productif tout de suite dans le slot. Vous allez entendre ça beaucoup aujourd'hui. Hein. Dans le slot. Mais c'est vrai. Et Roméo Doub, qui peut jouer un peu partout, peut-être se focus sur un certain tracé. Et Jaden Reed, le backup, et surtout sur les tracés vers l'intérieur. Quand on a un Watson qui va plus partir et tirer la défense verticalement. Donc moi, Jaden Reed, il peut être effectif tout de suite, efficace tout de suite, et certainement être une bonne surprise dans les années à venir pour Green Bay, qui en a besoin.
T'as pas peur avec la draft de, je crois, 2 receveurs plus 2 tight ends et un QB dont on n'est pas trop sûr que finalement les ballons soient énormément partagés?
Alors moi, quand je suis pas, si j'ai un quarterback qui n'est pas forcément à l'aise, je veux lui trouver des cibles courtes. Ouais. Ils ont pris 2 tight ends et un joueur de slot.
Okay, ouais.
Donc,
mais est-ce que ça ne sera pas Aaron Jones, justement?
Alors oui, moi j'étais le premier à dire que la value des running backs n'allait pas baisser plus que ça. Néanmoins, il faut que je prenne un receveur. Et je ne peux pas prendre Aaron Jones. Donc je prends Jaden Reed, qui est pour moi numéro 3 dans mon board.
Ton board, il peut être trouvé quelque part, que je sache comment piquer le prochain pick.
Je l'ai là, je peux le partager.
En gros, t'as pris un mec de Special Team, France, c'est bien. moi, je vais prendre. J'ai pris donc Charbonnet parce que c'est le meilleur running back sur mon board à moi, après ceux qui ont été pris et encore. Mais après, par rapport à Kenneth Walker, je pense qu'il va y avoir une grosse rotation parce que déjà, il s'est blessé un peu à la cheville, notamment en fin de saison. Donc, ils vont faire très attention avec Kenneth Walker. Donc, c'est pour ça qu'ils ont drafté Zach Charbonnet.
Donc là, moi, je vais partir sur un receveur. Je vais partir sur Josh Downs, qui a été drafté par les Colts. C'est un très bon route-runner dans les tracés courts, dans les tracés intermédiaires. Donc, je pense que dans le slot, il va pouvoir faire jouer un peu sa vitesse et sa petite taille. Et il a surveillé aussi en red zone parce que il a marqué pas mal de TD l'an dernier. Donc ça va être un profil intéressant dans une offense où il n'y a pas forcément grand monde derrière Pittman. Tout le monde doit plus ou moins confirmer. Donc il y a une place à prendre pour lui.
Parfait, à moi. Alors je vais commencer. J'ai 2 picks, alors je vais les faire dans l'ordre, tiens, comme ça respectera l'ordre de mon board. Je vais commencer avec un troisième receveur, Marvin Mims, Denver. Encore une fois, un peu comme Smith & Jigba, pas un super rôle cette année, d'autant plus que j'ai vu qu'ils ont pris la 5e année de Jerry Jeudy. Mais c'est un bon joueur et je pense qu'il a un chemin vers plus de volume d'ici un an ou deux dans une offense qui pourrait toujours. Ne peut que s'améliorer par rapport à l'année dernière, à mon avis, avec Russell Wilson qui sait toujours faire une passe, en espérant. Donc j'aime bien le potentiel de Mims. Et ensuite, je vais prendre mon running back, dans la personne de Kendre Miller, qui a signé aux Saints. Un profil de potentiel 3-down back, en tout cas bon sur le early downs. Alors lui aussi, hein, ça va être un peu un thème, vu que je pique en 6, j'ai pas pu avoir les mecs qui sont leaders dès le départ, mais lui aussi barré par Kamara et Jamal Williams. Kamara potentiel suspension cette année, donc ça ouvrira un petit peu de temps de jeu à Miller. et Jamal Williams, il va pas durer éternellement. Donc pareil, d'ici un an ou deux, c'est quelqu'un qui pourrait être le lead back des Saints, et ça, c'est un rôle qui m'intéresse.
Gros, gros physique, surtout. Donc là...
Ah, ça a écrémé, là.
Ouais, comme tu dis.
Il faut dire qu'en comme en plus, la QV des rookies n'était pas top, 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 donc c'est vite difficile, quoi.
Écoute, je vais partir sur... Je vais partir sur mon QB, je vais partir pour, sur Hooker. Alors, peut-être un peu vieux, pas toujours sûr, il sort de blessure. Pas mal d'interrogations sur lui, mais je pense que derrière Goff, alors peut-être pas productif cette année, mais derrière Goff, je pense qu'il peut apprendre. Et je, peut-être qu'avec les années, peut-être qu'il arrivera justement à sortir derrière Goff et à être intéressant. C'est plus un pari qu'autre chose. Il y a de gros risques quand même. C'est quelqu'un qui peut être bon aussi à la course, qui a une bonne vitesse. Voilà, maintenant, ça a surveillé au niveau des blessures, pas mal de problèmes au niveau de la lecture de défense, etc. Mais on va dire que c'est un pari à prendre.
Ok. Bah écoutez, comme j'ai pris Bryce Young, je vais prendre un
receveur. Oui, Mingo, Mingo. Allez là.
Mingo. Voilà. Parce que Mingo, potentiellement, c'est un peu comme Booty avec New England. C'est potentiellement un monstre. Et si ça clique intellectuellement et sportivement, ça peut être un tueur.
Et j'adore les deux frères qui font du reverse jinx l'un envers l'autre. Un qui prend Rich, qui va prendre Musgrave maintenant. L'autre qui prend Mingo et Bryce Young. Non, mais on vous voit, les mecs, on vous voit.
Non, mais bon, j'adore la subjectivité de mon frère par rapport à Green Bay. Mais c'est sûr qu'un special team au deuxième tour de la draft, je sais que t'es pas Gunkunst, mais quand même. Personne n'a rien dit sur Marvin Mims, qui est bien un beau Rich aussi, mais c'est pas grave. Je vais partir sur. puisqu'il a pris Kendre Binner, je vais continuer sur receveur. Et moi, je vais faire confiance. Moi, il est où ? Parce que j'ai plus mon. Hop. Je prends Rashi Rice.
C'est ce qui t'a piqué. Bon.
Je prends Rashi Rice parce que je fais confiance à Patrick Mahomes déjà, rien que ça. Et parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Il a quand même été poussé par Patrick Mahomes, apparemment. Je crois qu'il y a l'alchimie entre les deux. Donc,
ça ne te dérange pas les 14 receveurs déjà dans l'effectif ?
Bah écoute, il y en a bien 10 à Houston, il y en a une douzaine à New England aussi. Bon, voilà.
Il y a plein de receveurs, mais il y en a aucun qui sort du lot actuellement.
Donc, ouais,
c'est exactement.
C'est intéressant.
Donc, moi je trouve qu'en dynastie, c'est le type de risque à prendre, surtout là maintenant.
Et Michael Herman est parti en plus. Ouais.
Ouais. Vous avez pris les deux derniers receveurs que je connaissais sur le board à peu près. Je vais prendre le futur meilleur ami de Marc, nouveau receveur des Giants.
Voilà, bon
choix. Ils ont prolongé. Ouais. Alors, pour être totalement transparent, j'avais Mingo et Rice au-dessus de lui aussi. Du coup, ils viennent de tomber. Mais je pense que Daniel Jones peut encore progresser un petit peu. C'est pas impossible, notamment avec la confiance qu'on lui a accordée. Donc, on lui a mis une cible qui devrait être sa cible principale en profondeur. Hâte de voir ce que ça va donner.
Je me suis dit, j'ai dû en avoir un, Mingo, Rice et Hayat. Cool. très bien, très bien. Ok, bon, bah, je vais prendre un receveur du meilleur QB de l'AFC Est. Donc, je vais prendre Keishon Booty. Je pense qu'il a l'occasion d'être. Ouais.
J'y crois pas.
C'est un risque, on va dire. Mais là, je pense à ce niveau-là, au niveau des receveurs, il faut quelqu'un qui peut avoir au moins un chemin vers quelque chose, vers un peu de relevance, on va dire. Donc, c'est pour ça que je vais prendre Booty. Et après, pour moi, les receveurs, c'est très bof. Donc, je vais faire des paris. Je vais en faire un sur le poste de running back. Je vais partir sur un qui est, je crois, running back 2, de ce que j'ai compris en tout cas, parce que je crois qu'il n'y a plus grand monde devant lui, vu que Samaje Perine est parti. Donc je prends Chase Brown des Bengals, parce que je pense qu'il a une chance
d'être. Ça fait deux fois.
Ouais. Bien joué.
Ça fait deux fois là, après Kendrick Miller, Chase Brown.
Ouais, ouais, je pense que lui, il peut être running back 2 de son équipe. Et comme Joe Mixon, il y avait des rumeurs de cut, je me dis, d'ici un an peut-être, est-ce qu'il est running back 1, c'est à lui de voir.
Il peut se retrouver être running back numéro 1,
évidemment. Il pourrait être RB1 dès maintenant. Ouais,
ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais si on parle juste des rosters qui existent, en tout cas, c'est vrai.
Voir ce que ça va donner. Je vais continuer à faire mon homer. Hein. On va prendre Tyjae Spears. Ouais, il reste le running back.
Tu prends son jeu aussi ou pas?
Écoute, je prends le package qui va avec le running back. Malheureusement, je pense qu'il a moyen d'être productif en année 1, à voir comment va évoluer la situation de Derrick Henry. Il pourrait très vite, si la saison des Titans se passe mal, avoir un rôle. C'est un peu comme Will Levis, c'est du moyen terme si ça se passe très mal chez les Titans. Et à long terme, de toute façon, Derrick Henry, il est plus sur le début que sur la fin. Donc,
ouais. Plus sur la fin que sur le début, je dirais.
Sur la fin, sur le début.
Ouais, voilà, vous avez compris l'idée, quoi.
C'est un meilleur prospect que Haskins. Donc, non, ça se voit. Je disais ça pour rien.
Bastien.
Bon, moi, je crois pas trop à mon prochain pick parce que vous avez pris tout. Et toute ma stratégie est foutue. Mais bon. coup sur coup, Kendrick Miller, Chase Brown. Je vais prendre Roshan Johnson parce que bon, peut-être que ça va de Chicago parce que Montgomery est parti, parce que peut-être arriver. Alors j'y crois trop parce que je pense quand même que Simon également parce qu'ils font confiance à merci Khalil Herbert à Khalil Herbert, donc du coup mais bon, on sait jamais, une petite blessure de à ce moment-là, t'es obligé de faire ce genre de
choses. Forman aussi. Hein.
Donc, j'ai l'air donc la production oui. Donta Forman, tu crois pas à quoi?
Donta Forman, pour le connaître un petit peu, c'est certains types de tracés. Certains types non, de. Mais... C'est pas un three down back. Et je pense qu'en half PPR, comme ça, Johnson peut faire sa place.
L'année dernière, il a fait une bonne saison, Fantasy, globalement.
Il fait une excellente saison. Voilà. Dans une équipe de merde.
Oui, bah. Mais maintenant qu'il y a Justin Fields qui court aussi, tu te dis forcément ça va ventiler la chose. Quoi. Ouais, j'arrive. Eh bien moi, je vais faire mon homer du coup tout de suite puisque il faut prendre un tight end.
Musgrave.
Je prends Musgrave, qui est un des meilleurs pass catchers purs. De cette draft de tight end qui est techniquement celui qui pourra rapporter en tout cas le plus de points aux Packers parallèlement à Kunz, donc du coup le Musgrave des Packers.
Merci. Écoute, moi je vais prendre Schoonmaker, je sais pas comment on prononce,
j'aime beaucoup.
C'est un bon bloqueur, mais il peut être aussi impliqué dans la passe s'il arrive à améliorer ses tracés, ses séparations. Après, il est plutôt rapide pour un tight end. Je pense qu'avec le départ de Schultz, il y a une place qui se libère. Certes, il y a Ferguson, mais je pense qu'il peut apporter quelque chose à l'offense de Dallas. Quand même.
Moi, j'adore. Je pense que rien que le fait qu'il bloque bien, ça va lui donner beaucoup de snaps.
Ouais, parce qu'après il est bon en sortie de, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, pas en sortie d'écran, mais il fait genre de bloquer pour ensuite repartir.
Screen pass.
Excuse-moi, j'ai pas entendu.
En screen pass, tu veux dire?
Ouais, je sais plus comment. Non, je crois pas que ce soit screen pass. Enfin, j'ai plus le terme exact, mais ouais, à mon avis, il sera bon dans les petits tracés, les choses comme ça. Je pense qu'il peut être intéressant.
Faut expliquer à Jake qu'il n'y a pas de points par snap contre en fantasy.
Ouais, je sais.
Mais...
Ok, à moi.
Dommage.
À moi pour mes deux picks. Donc le premier, je viens de le faire. Je vais prendre Tank Bigsby qui a été drafté par Jacksonville.
Je pense que c'est un prospect qui serait classé beaucoup plus haut s'il n'avait pas été drafté par Jacksonville, où il sera dans un comité avec Travis Etienne. Ça pénalise Travis Etienne et Bixby tous les deux. Mais Bixby, ouais, un gros gabarit qui est bon à la réception également. Pas aussi explosif qu'Etienne, mais quelqu'un qui, s'il avait son propre backfield, serait beaucoup plus haut que ça. Et surtout, j'espère, assez durable. Et pour mon deuxième choix, je vais continuer dans ma stratégie. Ah non, mince, attends, j'arrête. Je triche. J'avais pas regardé où on en était.
Tu n'as plus le droit de le prendre.
Non, mais à chaque fois, il fait ça. Dans toutes les drafts, il y a un truc. Dans toutes les
lignes,
il vient de se rendre compte qu'il avait besoin d'occuper notre
Titan. Je dois produire une émission, je dois écouter vos bêtises sans intervenir. et je viens de voir qu'il reste deux lignes et je dois prendre un Titan et un QB. Donc, en Titan, je vais prendre le deuxième Titan que Green Bay a drafté, Kraft, en espérant qu'il gagne un rôle. Encore une fois, c'est un peu ambigu, c'est un nouveau QB, c'est beaucoup de nouveaux receveurs. Kraft, c'est un bon joueur et il reste au plus grand monde. Et j'ai plus confiance en Kraft qu'en Washington, qui a déjà des problèmes physiques et qui arrive dans une équipe où il y a déjà Freiermuth, etc. Même si c'est un joueur plus rigolo, je vais prendre Kraft en tight end.
Et Washington, il a plus un profil de bloqueur que de receveur.
Exact. Ouais.
Alors moi, je vais partir sur Zach Evans, un running back. Je pense qu'il arrive dans un backfield où ça va être intéressant, avec Cam Akers qui est souvent blessé. C'est un gros physique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact, qui peut gagner des yards après contact, etc. Donc je pense que Zach Evans, il peut, sur le long terme, je pense qu'il peut prendre le lead derrière Cam Akers et même dépasser Cam Akers assez rapidement.
Eh bien,
c'est toujours Alex qui prend, mais dans la depth chart des Rams, il y a, comment il s'appelle, Kieran Williams, parce qu'il était talentueux lui aussi.
Oui.
Qu'est-ce qu'il
vient? On l'a pas entendu l'an dernier.
Bah, il s'était blessé, je crois.
Ouais.
Mmh. Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, c'est vrai que c'est encore un backfield un peu ambigu. C'est toujours bon à prendre ça.
Et prospect super intéressant, Claire Williams. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et donc, moi, je disais, je vais chercher. Il est où? Je ne le trouve plus. Voilà, il est là. Tank Dell. Nathaniel Dell dit Tank Dell. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Tank. C'est une idée de puissance. Avec un nouveau quarterback, même si y a Nico Collins et Robert Woods, qui est venu notamment en renfort, Robert Woods, pour l'expérience, pour encadrer les receveurs. Dell est pour moi un receveur qui a beaucoup de talent, qui est parti beaucoup plus tard que prévu à cette draft. Donc, pour moi, Dell est un receveur à prendre en dynastie.
Bon, évidemment, il faut deviner, hein, donc c'est un peu compliqué, mais tu parlais, Marc, de backfield ambigu. Peut-être qu'on va en avoir un aux Cowboys. Et je viens de faire add to queue, et pas, voilà. Donc, Juice Vaughn, fils d'eux, puisque son papa est dans le coaching staff. Et donc, du coup, peut-être... non, je déconne. Peut-être qu'il va gagner sa place parce que papa le pousse. Non, mais en vrai, Tony Pollard, ça va être la première année où il est numéro 1. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et Juice Vaughn a un bon profil pour être un numéro 2 qui peut embêter Tony Pollard sur certains types de jeux appelés. Donc, c'est intéressant de voir ce que ça va donner.
Eh bien, pour moi, ce sera Cédric Tillman. Alors, c'est plus un pari long terme, puisque actuellement il y a encore Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones et Elijah Moore qui sont allés chercher dans un trade pour les squads. Donc, il apparaît comme le receveur 4. Amari Cooper est plus tout jeune. Elijah Moore, à voir s'il arrive à s'intégrer mieux que ce qu'il a fait chez les Jets. En tout cas, il a le profil pour réussir. Il fait partie de ces receveurs très grands, capables d'être ciblés dans la end zone. Donc, en cas de blessure, je pense qu'on le verra dès l'année prochaine.
Parfois, tu me voles le joueur que je voulais, et après, les receveurs, c'est vrai que c'est assez, risqué, on va dire. C'est assez faiblard, je trouve. Je vais gagner du temps. Je vais prendre un deuxième tight end parce qu'on n'a jamais trop de tight end. Et que vu qu'ils sont, ils se cassent tous la gueule tout le temps, on peut peut-être en prendre un qui va marcher. Du coup, je vais prendre Darnell Washington qui, certes, a des problèmes physiques, mais peut fonctionner, je pense. Donc voilà. Puis il suffit qu'il fasse 8 points et il sera toujours meilleur que le tight end que j'ai, je pense, dans l'équipe. Si jamais, si jamais c'est une équipe que j'ai. Donc, je vais prendre Darnell. Ouais. Et ensuite, un receveur. Et là, je vais faire plouf plouf. Et écoute, je pense que je vais prendre Michael Wilson des Cardinals parce que avec DeAndre Hopkins qui peut partir pas cette année mais l'année prochaine. Alors certes, il reste Hollywood Brown, il reste Rondell Moore, mais c'est que des joueurs qui, j'ai l'impression, se blessent tout le temps, même Hopkins. Donc peut-être qu'il aura des chances d'avoir des snaps cette année et on verra après sur les années suivantes. Mais niveau receveur, j'aime pas du tout ma draft. Donc c'est bon à savoir ça pour la suite.
Ok, déjà de retour ici, je vais finir avec un autre receveur, je vais aller clairement sur un de mes chouchous de cette draft, Puka Nacua, le receveur drafté par les Rams. J'ai lu pas mal de choses sur lui qui m'ont intéressé, et globalement il y a pas mal de traits de comparaison, pas mal de métriques, on le met dans des catégories de receveurs qui ont réussi en NFL. Et surtout, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que derrière Cooper Kupp, entre Ben Skoronek et Van Jefferson, il n'y a pas vraiment de terreur. Il va avoir Stafford pendant encore au moins un an, à voir quelle sera
pendant la trois semaines.
Ou pas.
Peut-être pendant trois semaines. Et...
Stetson Bennett season.
Si ça se passe bien, si ça se passe bien pendant un an, donc je pense qu'il peut avoir une bonne value immédiate et je ne serais pas étonné qu'il réussisse en NFL.
Si quelqu'un veut prendre Stetson Bennett pour voir comment
marche, je vous le spoil, les gars. Marc, c'est une émission, on est là pour se marrer. Bon.
Ouais, je voulais juste dire pour Michael Wilson, c'est aussi le chouchou de Ryan de Trickplay. Okay. Disait, il est hyper sous-coté.
Très bien.
Je suis d'accord, puisqu'à Arizona, si Hopkins s'en va, il va y avoir de la place quand même un petit peu. Et je reviens à mon pic. Évidemment, j'ai aucune idée de ce que va donner Stafford. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aux Rams ? Eh ben, pas grand-chose. Donc du coup, moi, comme on est en super flex,
mais t'as pas le droit, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit.
Ah mais
ah, c'est dommage.
Le droit.
Mais pour ça qu'il a attendu, le dernier tour une fois que tout le monde avait.
Marc, t'aurais fait comment ?
J'aurais pris quelqu'un d'autre, mais logiquement, le but c'était de prendre juste un QB. Donc comme c'était mon QB 6,
j'allais. C'est pas grave, Matt Breda, ça va bien 2 minutes, Saquon Barkley va se blesser, alors Eric Gray. Oh.
Est-ce qu'il a une capacité de jouer 3 downs, Eric Gray, selon toi?
Non.
Ok.
Mais bon, il peut apprendre en NFL, mais
Claire,
évidemment.
Non.
Non, mais je ne demandais pas une réponse longue. Allez.
Ok. Franchement, j'hésite énormément. Maintenant, je pense que je vais m'orienter vers l'autre receveur de Houston, qui a aussi un potentiel important. Et aussi, et incompréhensiblement très très tard, dernière draft, c'est Xavier Hutchinson, donc de Houston, qui a un super potentiel. Et je me dis dans cette stratégie que si jamais Dell ne fonctionne pas, j'ai Hutchinson et inversement. Mais au moins, j'ai un futur receveur avec le futur quarterback de Houston.
Et comme ça, si jamais tes receveurs sont nuls, tu peux toujours t'en foutre, t'en prendre à Franz qui a Stroud. Voilà,
c'est moi qui ai quarterback de Houston. Totalement QB, chouchou.
Donc là, pour le premier prochain choix, franchement, j'y vais au hasard. Non, je vais prendre le tight end qui a été recruté par San Francisco, qui a plus un profil de bloqueur, mais après, derrière Kittle, c'est un peu le vide intersidéral. Donc, je me dis qu'il a une place à prendre en tight end 2. Donc, voilà.
Ok. Ok, et bah donc sans surprise, je vais prendre Stenson Bennett. Vous en avez déjà parlé rapidement. Effectivement, il y a une place à prendre si jamais Stafford se blesse. On a vu ce que ça donnait sans backup cohérent l'année dernière pour les Rams. Apparemment, j'ai lu Peter King a dit que c'était le secret passion player de Les Snead, le GM des Rams. Double champion NCAA, underdog story. Le mec montre qu'il a du leadership, qu'il lâche rien. Et ce genre d'histoire, parfois, ça peut faire des surprises en NFL. Donc...
T'aurais pris qui si Stetson Bennett avait été pris par Mike?
S'il me fallait un QB, si j'étais obligé de prendre un QB?
Ouais, t'es obligé de prendre un QB et il y en a 6 qui sont déjà sortis, du coup.
Ouais, si j'étais obligé de prendre un QB, le mec d'après, ça aurait été Thompson Robinson qui a signé à Cleveland, mais lui, pour le coup, il jouera pas pendant au moins 3 ans, à mon avis. Mais je pense qu'il a le talent pour se développer et jouer dans une équipe en deuxième contrat potentiellement. Mais bon, ça serait franchement juste des mecs qui squattent le banc et qui servent à rien, honnêtement.
Après, pour le...
Jared Paul
pour l'apport immédiat.
Pareil.
Là, je sais pas, pour l'apport immédiat, j'aurais pris Clayton Tune d'Arizona. Parce qu'avec Kyler qui est blessé et McCoy qui est... Ouais, c'est Colt McCoy qui tourne là. Qui a 50 ans, au bout d'un moment, je pense que si le mec sait lancer un ballon, il joue, quoi.
Ouais, mais il joue, mais il sert à rien. Sincèrement, j'aurais pris Thompson, parce que parmi tous les mecs qui restent, je pense que c'est celui qui a peut-être une meilleure chance d'être relevant, pas forcément plus de talent, mais en fantasy, il pourra faire plus de points. Mais aucun des mecs qui restent, j'aurais confiance et je leur donnerai une place sur le banc. Alors que Bennett,
j'ai une question, Alex, pour le coup, parce que Jordan Love se blesse, il y a Sean Clifford que vous avez pris. Est-ce que du coup, tu penses que Green Bay va s'orienter vers prendre un quarterback rapidement libre, agent libre, pour faire le remplacement, ou ils vont vraiment faire confiance à Sean Clifford? J'imagine que tu n'en sais rien, parce que c'est impossible de savoir à ce moment-là, mais connaissant le front office, c'est un peu bizarre. Pas la chaîne YouTube, hein, qui est fantastique. Hein. le front office des Packers, bien sûr.
Bah, faut savoir déjà que, oui, on a Etling, qui avait été recruté en tant que QB. Dans les depth charts, ils mettent Sean Clifford en tant que quarterback numéro 2, tout de suite devant Etling. Bon, je veux dire, c'est un rookie. Derrière un quarterback qui a joué que 3 matchs en NFL, c'est vrai que c'est chaud. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut faire.
Si vous voulez un QB d'expérience, on vend un Tan Hill.
Oui, non, mais voilà. C'est possible.
On a très lent,
mais c'est vrai que déjà, on n'arrive pas à comprendre forcément la stratégie de notre fils. Alors là, avoir deux QB comme ça, c'est sûr que si jamais il se passe quoi que ce soit... C'est pour ça que j'étais un peu surpris par le choix aussi de la ligne offensive, en espérant qu'on ait bien tout le monde. Mais oui, c'est une grosse question. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas quoi te répondre. Malheureusement.
En fin de draft comme ça peut être intéressant de faire un pari de ce type, quoi, par exemple.
Puis au pire, c'était même pas le meilleur QB à prendre en remplacement comme ça, QB2 à prendre par rapport à Jake Henner ou... Moi, je veux dire, c'est bon.
Ah, Jake Henner était encore disponible quand vous avez pris Sean Clifford.
Oui. Non. Je parle. On aurait pu monter, genre, on aurait pu, toi, je sais pas.
Ah oui,
pardon. Mais voilà, je veux dire. Je veux dire, par là, c'est pas évident, quand même.
Je sens qu'il a adoré cette draft.
Il a pris un vrai plaisir à la regarder.
Oui. Parfaitement, c'était passionnant.
Parfait les gars, merci. Merci pour cette mock draft. J'espère que ça vous a aidé à voir un peu les profils et voir un peu qui on pouvait construire. Bon, c'est pas tout à fait réaliste parce que là on est 6, la plupart des ligues c'est 12 et il y aura 3-4 rounds. Mais je pense qu'on a été pas trop mauvais. J'ai pas vu de kicker au 3e round, hein, l'autre show. Donc,
il n'y en avait pas
globalement.
J'aurais bien pris, mais
globalement, c'était pas trop mal. Donc voilà, maintenant on va voir un peu comment tout ça, ça évolue dans les premières semaines de OTAs et les premières rumeurs qui sortent. Je commence déjà à avoir des trucs genre, ouais, bon rapport entre CJ Stroud et Tank Dell. Je vois des trucs genre Jonathan Mingo, les gars sont trop fans, machin. Toutes les rumeurs vont commencer à sortir, les beat writers vont être positifs à mort pour essayer de vendre des season tickets. Ouais. Et que les fans soient chauds. Donc on va, c'est la, une des parties les plus marrantes, d'essayer de trier le bullshit de la réalité. On commence déjà à voir des vidéos au ralenti. Je vois Aaron Rodgers qui fait une passe à Garrett Wilson. Les mecs qui se voient déjà au Super Bowl.
Qui est pas bonne d'ailleurs la passe. Ouais.
Elle est au super ralenti. Donc là c'est vraiment la partie marrante.
Là où t'es pas ralenti en fait.
Et dernière question, les gars.
Moi, j'en avais une aussi, en rapid fire.
Vas-y.
Rapid fire.
Comment ça va?
L'année qui arrive, en termes de points, nombre de points fantasy, Anthony Richardson, over ou under Justin Fields?
Là, 2023?
Là, qui arrive?
Moi, je dis under.
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 Under, j'hésite même pas.
Ouais, under aussi. Ouais.
Under. Okay.
Je pense que je rentre en tant que match.
Tout le monde se dispute un peu là-dessus.
Pour le coup, moi je dis Fields, il a un peu plus d'expérience. Il a été ultra fort l'année dernière. Il a DJ Moore et d'autres armes qui sont venues l'aider. Et à mon avis, Fields, il y a moyen qu'il soit en fantasy, hein, surtout dans les scoring à 4 touchdowns par passe. Et 6 à la course, il pourrait être dans le top 5 hein, cette année. Il pourrait faire une Jalen Hurts l'année dernière.
J'ai compliqué un peu plus la chose, Alain. Anthony Richardson, au-dessus ou en dessous de Deshaun Watson?
En dessous.
En dessous aussi. Ah.
Bah, je dis probablement en dessous.
Je pense que Watson, c'est presque un sleeper.
Ouais, moi, je pense probablement en dessous, sauf si Indianapolis le fait start week 1. Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que Richardson va start week 1? S'il start week 1 qu'il ne se blesse pas... Ça peut se jouer parce que sincèrement, si tu pars du principe que il fait 50 yards à la course par match, un demi-touchdown, on va dire un touchdown tous les deux matchs, ça fait 8 points fantasy de base. Watson, il va courir autant qu'il fait à Houston.
Ah, mais après, il reste quoi,
Alexandre, les débats dans qui ont été parlé, c'est simplement parce que les mecs n'arrivent pas à accepter que Gardner Minshew soit un QB titulaire en NFL. Donc du coup, on crée ce genre de débat.
Et moi, je pense que pour Richardson, autant je suis un supporter de Richardson en dynastie, autant j'espère que Minshew va jouer au moins 13-14 matchs cette année.
Ouais. Parce que tous les mecs... C'est ce qu'on entend d'être partout, hein, que Richardson, il fallait ici l'attendre au moins un an.
Si ouais, tous les mecs qui ont réussi, Mahomes, Lamar Jackson, tous les mecs qui n'ont pas cramé en route, Josh Allen, ils ont tous attendu un an avant de jouer. Et les mecs de la génération 2021, comme ils avaient tous été draftés super tôt, Trevor Lawrence, on a failli l'enterrer alors que ça faisait un an et demi qu'il jouait, et là tout d'un coup on s'est dit, si, finalement il commençait, il est starting together. Justin Fields, c'était le mec ultra nul, QB25 en dynastie, tout d'un coup il fait 4 bons matchs, on se dit, ah mais merde, en fait il était fort, tu vois, depuis le début. Alors, Zach Wilson, il s'est brûlé et il reviendra sûrement pas. Lance, on sait pas, il s'est blessé, on l'a jamais vu. Donc finalement, moi je serais pour qu'il cite au moins la moitié de l'année.
Justement, est-ce que les Colts vont pas avoir envie de faire comme les Jaguars, à se dire, on fait jouer Anthony Richardson, s'il est pas bon, ce sera comme Trevor Lawrence, tant pis, on verra l'année d'après et on utilisera cet argument. Et si ça se passe bien, bah, t'as ton QB profil moderne. Parce que les Colts, ça fait 3 ans, les mecs, qu'on leur répète, on leur dit, vous avez laissé passer votre fenêtre, vous avez pas votre QB, vous aviez des bonnes lignes, bonne défense, enfin, l'effectif était complet, il manquait que la dernière pièce. Moi, j'ai un peu peur qu'ils fassent le choix de précipiter le truc et qu'ils se disent, s'il n'est pas bon, on dira, bah, regardez Trevor Lawrence, et si ça marche, on dira, bah oui, bien sûr, regardez Hurts et Fields, il est pareil qu'eux.
Et la pression populaire.
Aussi. Moi, j'ai un peu peur de ça.
Il faut voir comment se passe l'été déjà, mais je pense que Richardson, perso, hein, ça c'est mon avis, après avoir regardé un petit peu et m'être informé, parce qu'encore une fois, je ne regarde pas trop le collège, donc je ne peux pas dire ce que j'ai vu à Florida, mais je pense qu'il est plus prêt que ce que beaucoup de gens pensent. Okay. Il est plus proche d'être prêt parce qu'il a certaines armes qu'il a déjà compris dans sa gestion, d'embrouiller les défenseurs, de les lier de mauvais endroits, etc. Et ensuite, son athlétisme peut faire le reste. Donc évidemment, il y a plein de trucs où il va faire des erreurs et tout ça, c'est un rookie, c'est normal. Mais je pense qu'il est un peu plus prêt que ce qu'on dit. Mais que s'il start direct et que tout le monde pense que ça va être une star dès le départ, ça risque de... Enfin, il faudra qu'il soit bien entouré, quoi, dans sa tête. Mais je pense que, ouais, idéalement, Minshew joue, parce que Minshew, il est super compétent. Et après, on voit ce que ça donne.
Ça serait très cool. Avec Jérôme, on a Minshew sur une Ligue Dynasty. Si ça ne peut, où on manque cruellement de QB, alors s'il peut jouer, ça peut
nous rendre ça. Je suis un grand fan, d'où la moustache.
Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que Richardson, je pense vraiment, par rapport à son style de jeu, qu'il soit bon ou mauvais dans la réalité, il sera en top 12 en fantasy. Parce qu'il part avec un floor super élevé de points, même s'il fait des interceptions, on s'en fout, ça coûte moins un. Enfin, encore une fois, c'est le cheat code parce que le scoring fantasy est mal foutu. Donc il aura au moins il aura un floor tellement élevé que ça va
être... Oui, la grande question, c'est est-ce qu'il va avoir le terrain. C'est donc toute la question réside là. Ouais. Est-ce qu'il voit le terrain? Et s'il voit le terrain, mais d'ailleurs Minshew c'est pareil. Je veux dire, il y a des armes aux Colts, hein. Il y a quand même un gros parc de receveurs, il y a Jonathan Taylor, il y a une ligne qui est pas comme à l'époque, mais qui est quand même correcte.
Correct.
Donc, est-ce qu'il voit le terrain ou non? S'il voit le terrain, c'est boom fantasy. S'il voit pas le terrain, c'est mort.
Ouais. Et bien, sur ces belles paroles, sur Anthony Richardson... merci encore les gars, merci à vous. De notre côté, alors déjà front office, qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochaines semaines?
On va faire une tier list de chaque équipe de la draft, histoire de voir un peu ce que ça peut donner. Il va falloir qu'on travaille toutes les drafts du coup pour faire
c'est,
ça.
C'est l'heure du conseil de classe.
Ouais, exactement. Ouais, voilà, exactement.
C'est ça.
Donc déjà, les drafts draft grade aussi? Vous donnez des notes?
En soi, on va le faire en même temps, vu qu'on va faire une. On va les mettre en tiers. On va voir si on fait AFC puis NFC, mais en tout cas, c'est le plan. Et puis, on a nos deux programmes qu'on a commencé le mois dernier avec la Bye Week, où Jérôme interview quelqu'un de la communauté francophone, et la Game Zone, où on fait du coup des jeux. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu le premier, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc allez voir. Et puis, le prochain sera dans 2 semaines.
Gros boulot hein, pour la Game Zone.
Ouais, ouais, excellent.
Gros boulot.
Ah bah merci, hein, ça fait plaisir.
C'est hyper plaisant. Hein.
Et de notre côté, on va faire une petite pause maintenant que la draft est passée, je pense. En tout cas, au niveau des podcasts, on va suivre évidemment, comme on a dit, les rumeurs d'OTA. On va voir tout ce qui se passe et comment ça peut faire évoluer. On se retrouvera peut-être fin mai ou début juin avec Val du Trick Play. Pour justement parler un peu de la fin des OTA, voir ce qui s'est passé, comment s'adaptent les rookies dans leurs nouvelles équipes et qui sont les forces en présence à regarder. Et puis parler un petit peu de son boulot de scout aussi qui évolue vachement bien. Et voilà, donc on se retrouvera pour le prochain podcast un petit peu plus tard. Sur ce, je vous souhaite une super soirée les gars. Et si vous avez des questions Dynasty Fantasy, n'hésitez pas. Et on se voit bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, bonne soirée.
Merci, salut tout le monde. Bye bye, bonne soirée.